Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10-10 en direct aujourd'hui depuis Radio FM+. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Deux hommes autour de moi, je suis contente. Ça me fait plaisir. Et un autre à la technique d'ailleurs, Aurélien qui va assurer donc la retransmission de cette émission. Jean Maillet, donc, qui est animateur à Radio FM+, que tout le monde connaît bien. Et puis Jean-Jacques Fossé, qui est président de l'UDAF 34. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour à tous les deux. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'UDAF. Alors c'est vrai que bon, beaucoup de gens connaissent l'UDAF. C'est un acronyme qui veut dire, d'ailleurs, vous allez nous le préciser.
Union départementale des associations familiales.
Alors beaucoup de gens connaissent parce qu'effectivement, c'est une association qui est très présente dans les institutions, auprès des officiels et des élus d'ailleurs. Et puis aussi auprès des gens et des familles parce que depuis maintenant 81 ans, vous œuvrez auprès des familles. Je voudrais d'ailleurs qu'on donne un petit historique de cette association qui naît juste après la guerre.
Juste avant, si tu permets, oui. Maria, toute cette semaine, tous nos 10-10 vont tourner autour des 80 ans de l'UDAF et on accueillera des associations partenaires de l'UDAF mardi, mercredi, jeudi.
Si vous me permettez, c'est aussi les 80 ans de la Sécurité sociale.
C'est surtout ça le départ.
Tout à fait. Et c'est à partir de là qu'on a décidé, au carrousel, donc, d'organiser une expo sur le poids des associations familiales dans les mesures qui ont été prises à l'échelle nationale.
Une exposition qui sera visible toute cette semaine.
Tout à fait.
Dans les locaux du carrousel, on rappelle l'adresse, c'est au 9 cours Gambetta. Voilà, c'était une petite précision pour les 10-10 de cette semaine.
Donc on revient sur cette histoire justement, puisqu'on parle de 1945, moi j'ai 81 ans. Allez, vous avez 80 ans.
On les aura en novembre.
C'est plus cool de dire 80 parce que
on vient de fêter nos 80,
c'est ça.
Et on est dans les 80 ans aussi, l'année des 80 ans de la Sécurité sociale, puisqu'on est né à la sortie de la guerre, sur le besoin des familles d'être représentées dans les institutions. Et c'est un texte, c'est une circulaire gouvernementale qui crée les UDAF. Et les UDAF se réunissent en union après pour créer ce qu'on a appelé l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales.
Et il existe aussi l'URAF.
Alors, il y a des URAF.
C'est l'Union régionale des associations.
Oui, mais les unions régionales ne sont pas statutaires, ne sont pas inscrites au Code d'action sociale des familles comme le sont l'UNAF et l'UDAF, avec de droits spécifiques, etc. Les URAF ne les ont pas, c'est bien un rassemblement d'UDAF qui travaille, une coordination.
Vos missions principales, on va les définir tout de suite. On rentrera peut-être dans le détail tout à l'heure.
Bien sûr. Donc, c'est la représentation de l'ensemble des familles auprès des institutions, hein, des pouvoirs publics, de manière générale. C'est la défense des intérêts moraux et matériels de toutes les familles, chaque fois qu'on peut le faire. C'est l'exercice devant les tribunaux du droit de la partie civile pour représenter les familles également en justice. Donc, ester en justice, c'est un droit. C'est également la gestion de services à destination des familles, mais là, par des professionnels. Voilà. Et je dirais que, en plus, l'UDAF s'est diversifié dans ses services.
Voilà. Je vais vous poser une question. Quand vous dites tester en justice, dans quel cas, par exemple, vous pouvez représenter
Alors,
les familles ?
Alors, comme on est également association de consommateurs, on va pouvoir éventuellement attaquer tel groupe parce qu'il ne respecte pas, la sécurité alimentaire ou les clauses abusives sur certains contrats, etc.
Et à côté de ça, une famille peut vous interpeller en disant je n'ai pas accès aux droits ou mes droits ne sont pas reconnus.
Tout à fait, on est association nationale de consommateurs reconnue en tant qu'UDAF. Toutes les UDAF sont une association de consommateurs.
Comme l'UFC que choisir, des choses
voilà, on va voir comment tout ça se coordonne d'ailleurs, parce qu'effectivement, vous êtes tous sur des missions parfois semblables, donc il faut que vous travaillez ensemble ou que les gens fassent des choix en disant je vais plutôt vers l'UFC que vers l'UDAF.
Oui, après c'est plus souvent une question d'opportunité et de gens qu'on connaît et de communication nationale pour les grands groupes, ce qui est moins le cas pour les UDAF. Qui sont dotés de ce pouvoir-là, mais pour leurs propres adhérents dans un premier temps, c'était d'abord chaque fois qu'on était interpellé auprès de nos associations, puisque nous sommes...
Voilà, c'est qui vos adhérents ?
Alors, on n'a pas d'adhérents du DAF, on a des associations qui sont adhérentes à l'Union. Et chaque association familiale, il y en a 34 dans l'Hérault, je vais en citer quelques-unes, famille rurale, les associations familiales catholiques, l'entente protestante, les parents gays lesbiens.
On va les retrouver tout au long de cette semaine.
C'est ça. Ou comme moi je suis issu, les associations familiales laïques. Voilà,
qui sont laïques, voilà, laïques,
donc,
confessionnelles.
Et vous autres. Représentez les familles auprès de 57 instances officielles.
Tout à fait. Et nous avons 183 représentants dans ces instances.
Donc moi, je voulais... On a dit qu'on faisait un
donc
petit
historique.
Donc
c'est un sacré poids quand même.
J'ai vu qu'en 75, bon, on passera rapidement là-dessus, vous allez représenter toutes les familles monoparentales, étrangères, reconstituées, etc. Ça, c'est un élargissement du DAF. En 1980, il y a une logique professionnelle qui s'installe et il y a le fameux service de tutelle ou de curatelle.
Bien sûr, avec l'arrivée des CCAS qui arrivent dans cette
les
période-là.
Les centres communaux d'action sociale.
Voilà, tout à fait. L'action sociale sur le local a évolué et les UDAF se sont adaptés et ont créé des services alors avec des professionnels, donc des gestionnaires de tutelle qui ont pris, que ce soit des
qui
tuteurs.
Qui demandent des connaissances en droit.
Voilà, absolument. Donc, ce sont des professionnels. Donc, que ce soit des tuteurs ou des curateurs, enfin, des mesures d'assistance pour les enfants.
Et ça, c'est les collectivités publiques qui vous le financent.
Alors, c'est financé par l'État pour une D'accord. grande partie. Puisque c'est de la responsabilité de l'État que d'accompagner les familles en difficulté, les personnes en difficulté.
Autre date importante, un petit peu plus tard, c'est cette fameuse certification ISO et AFAC.
Absolument.
Ça veut dire que... Alors, c'est des certifications de qualité. Hein,
absolument. Ça, l'idée était de dire, nous avons une responsabilité sociale des organisations, c'est-à-dire que notre action n'est pas neutre, et donc, nous voulons mettre de la valeur et des valeurs à défendre dans le travail que nous faisions, que ce soit professionnellement ou avec les bénévoles. Et donc, on a toute la certification, on est une des premières associations à obtenir ces qualifications pour justement garantir...
Ce sont des labels. Hein,
ce sont des labels.
Il faut répondre à
avec
certaines...
Avec un gros cahier des charges
c'est
qui
une
est
forme
renouvelé.
D'évaluation.
C'est une évaluation interne et externe de ce que nous faisons.
D'accord. Donc, ça, maintenant, on situe bien l'UDAF. La question est, comment vous recrutez, comment les gens viennent vers vous s'ils sont intéressés par ces missions? On verra plus précisément après, mais comment on fait quand on veut frapper à la porte du DAF, soit parce qu'on est famille, soit parce qu'on veut aider?
Alors, on ne frappe pas à l'UDAF, je le disais tout à l'heure, nos adhérents sont les assos.
On frappe aux assos.
On frappe chez les associations, chacun en fonction de ses attirances, de ses obédiences, de ses valeurs. Si on est plutôt protestant et qu'on a envie de partager démarche
FEP,
de l'entraide protestante, on va aller à la FEP. Si on a plutôt une vision laïque des institutions, on se dit il y a des choses à défendre en termes de droits pour tous, etc. On va plutôt aller vers les AFL ou si on est plutôt catholique, on ira vers les AFC. Enfin. Donc c'est vraiment en fonction de ce que chacun porte comme valeur qu'on va se diriger vers des associations.
Y compris des associations locales, par exemple, je pense à Solidarité Dom-Tom, qui me semble est adhérent.
Tout à fait, CF.
C'est la CSL.
La CSF. La Confédération syndicale des familles.
Ah oui, que d'acronymes.
Ouais. Confédération syndicale des familles, qui est un membre de la Confédération syndicale des familles. Et donc, effectivement, pour les Dom-Tom, c'est une association locale qui est dans la CSF et qui est représentée à l'UDAF.
Alors, je ne sais pas si le chiffre est toujours bon, mais j'avais vu sur votre site que vous représentiez près de 2500 familles quand même.
Alors, je n'ai plus tout à fait le
moi,
chiffre
j'ai 2433,
mis à jour,
enfin, bon,
mais ça doit être à peu près ça.
Ça veut dire
alors,
que c'est un chiffre qui augmente, je suppose, avec les difficultés de
alors,
notre société.
Pas forcément, parce qu'il faut, pour avoir des représentants des familles, on représente toutes les familles de l'Hérault.
Oui.
Donc, en représentation, c'est-à-dire de droit, ce qu'on représente auprès des institutions, c'est toutes les familles de l'Hérault.
Oui,
par contre, des familles adhérentes, on ne représente pas que les familles adhérentes, mais les familles adhérentes, elles vont dépendre de leur adhésion aux associations.
Donc, en
fonction du nombre d'adhérents dans chaque association, on n'adhère pas de manière individuelle aux associations, on y adhère en tant que famille. C'est-à-dire, quand on y adhère, toute la famille est adhérente.
Alors, la famille, c'est la famille, la première cellule, ou alors c'est la grande famille avec les
alors,
les
là-dessus, il y a des visions qui sont très différentes. Oui. Nous portons, nous, dans l'Hérault, une vision progressiste, je dirais, de la famille depuis très longtemps. À l'échelle nationale, l'UNAF est plutôt dans quelque chose de plus restrictif. Mais pour nous, la famille, ça peut être aussi les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants.
Les familles recomposées.
Les familles recomposées, bien sûr. Les familles monoparentales, les familles homosexuelles. Pour nous, il n'y a pas de différence. Une famille, c'est une famille. Et peu importe sa composition.
On a posé le cadre, si vous le voulez bien, pour cette première partie. Déjà comme ça, je pense que les gens ont le temps de réfléchir un petit peu à ce qu'on a dit pour qu'on puisse passer à la suite. Vous allez pouvoir boire un petit verre d'eau et on va passer une pause musicale, si vous le voulez bien, que vous avez choisi. Bohemian Rhapsody de Queen, c'est très connu, mais c'est toujours aussi bien. Merci d'avoir
Merci
choisi ça.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little law. Any way the wind blows doesn't really matter to me.
Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again,
on abandonne à regret, hein, Queen.
Non, on ne l'abandonne pas, il reste sous nous. Ah, on l'entend, écoutez bien.
Alors Maria, dans ce 10-10, on parle de l'UDAF et de ses 80 ans et de toute cette semaine qui se passe aussi au Carousel.
Oui Jean, c'est vrai, avec aujourd'hui comme invité Jean-Jacques Fossé, qui est le président du UDAF 34. Merci d'être venu, d'avoir dégagé du temps pour
merci,
nous.
Merci à vous.
Et pour fêter cet anniversaire de 80 ans et demi, allez, on va être précis. Dans cette deuxième partie d'émission, moi j'aurais aimé qu'on parle vraiment d'émission, puisque c'est quand même très varié, c'est toujours en lien avec la famille, je suppose que ça évolue aussi. Donc les grands domaines d'intervention, moi j'avais vu le logement, l'enfance, l'adolescence, les majeurs protégés, qui sont arrivés un petit peu après, les aidants, c'est-à-dire les personnes qui accompagnent les gens malades dans leur famille. Voilà. Et puis les organismes de consommateurs. Est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus? Parce que vous êtes, encore une fois, j'allais dire, nombreux sur le tarmac. Oui. Nombreuses associations, puisque l'UDAF est composé d'associations départementales qui sont effectivement sur ces créneaux d'action ou d'activité.
Oui, tout à fait. Nos missions, de toute façon, sont réparties, je dirais, en deux volets. Le volet porté par les bénévoles, les adhérents, qui nous représentent dans les institutions, et puis les missions qui sont tenues par les professionnels. Donc sur les professionnels, on a un pôle petite enfance avec une crèche, où on accueille des familles, un pôle protection de l'enfance, où on gère des mesures du conseil départemental pour la protection de l'enfance, on a une protection des personnes, donc avec les majeurs protégés, que ce soit en tutelle ou en curatelle, en termes de gestion, on a un pôle habitat, sur l'accompagnement au logement aussi.
Alors, accompagnement au logement, c'est... Bon, il est vrai que là, les élections municipales viennent de se passer, qu'il y a une question qui est revenue très souvent de la part de nos concitoyens, c'est le logement particulier, l'habitat social. Absolument. Et la difficulté d'obtenir un logement. Ça dure parfois des années.
Tout à fait. Et on est présent donc, dans les conseils d'administration des offices HLM, dans lesquels on essaye de peser, non pas sur la commission d'attribution, qui sont, on va dire, de plus en plus légiférer. Et donc, où on a de plus
en plus. Et à raison, parce qu'effectivement, quand même, ce qu'on a beaucoup entendu pendant cette campagne municipale, c'est les uns et les autres venant quémander auprès des différents candidats des logements. Il faut toujours rappeler que, dans les faits, c'est extrêmement encadré de manière justement à éviter ce clientélisme au maximum.
Honnêtement, il y a des endroits où ça se passe très bien, il y en a d'autres où le clientélisme perdure parce que, malgré tout, le poids des élus dans le conseil d'administration est parfois suffisant pour que même avec une décision encadrée, on arrive à glisser.
Oui, les CCAS sont représentés au sein de ces instances. Et donc les CCAS, c'est quand même l'écho immédiat, j'allais dire, des besoins du territoire en matière sociale. Et donc c'est eux qu'on va voir quand on cherche un logement, par exemple, on va voir.
Tout à fait. Alors nous pour représenter très intégralement l'ensemble des intérêts matériels et moraux des familles, on a un interne de l'UDAF, donc des commissions pour nos bénévoles, où on va travailler ces dossiers. En ce moment, par exemple, sur la commission logement, qui est une commission de l'UDAF, on travaille sur la loi DALO, sur les dossiers d'ALO.
Rappelez en un mot ce qu'est la loi DALO.
Alors, c'est le droit d'accès au logement opposable qui a été créé il y a une quinzaine d'années.
Par logement l'État. Opposable, ça veut dire ?
Ça veut dire que normalement, si l'État ne
droit
peut pas
voilà.
Permettre d'avoir à quelqu'un qui a droit à un logement, il est censé l'indemniser. On a la réalité, c'est beaucoup plus complexe pour avoir droit à un dossier.
Oui, il y a une mécanique.
C'est des mécanismes qui font que très peu de gens vont au bout avec une compensation financière, pour ne pas dire pratiquement pas. Mais par
contre, ça a permis
malgré tout sur ces dossiers d'être prioritaires dans les attributions. Et la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a des dossiers qui sont relativement complexes à remplir. Et qui font que, avant d'être complet, de pouvoir être présenté en commission, et donc
de remonter dans la liste.
Mais est-ce que ça serait pas un domaine dans lequel il faudrait travailler, parce que tous les dossiers de demande sont extrêmement complexes, si bien que beaucoup de gens se découragent et disent non, c'est pas possible. En plus, avec la numérisation des.
Il y a la complexité des dossiers d'une part, mais il y a surtout l'absence de logement.
De toute façon.
La problématique principale, elle est là. C'est-à-dire de toute façon, on est dans des zones tendues en termes de logement, dans l'Hérault, sur la métropole de Montpellier, mais aussi sur la bande littorale. Alors après, c'est un peu moins problématique sur l'arrière-pays, mais les situations économiques de l'arrière-pays font que on va pas aller forcément s'installer dans un endroit où il y a du logement pour le logement si on n'a pas de boulot après derrière.
Voilà, si on bosse à Montpellier et qu'on habite l'Odève, il y a un souci.
C'est compliqué.
Voilà.
C'est compliqué.
Autre question, enfance et adolescence. On a vu ces derniers temps qu'effectivement c'était des fois un peu tangent au niveau de la surveillance et du suivi de ces adolescents et de ces enfants dans certains centres, dans certains endroits où ils étaient peut-être moins en sécurité qu'on ne pouvait le penser. Est-ce que là vous avez
on a des actions depuis très longtemps, bien sûr. Les familles sont d'abord attentives à leurs enfants. Une famille, dans un premier temps, est pensée comme étant des parents qui s'occupent d'enfants. C'est quand même la base de sa définition.
Oui, mais les tensions sociales font des fois que les choses deviennent de plus en plus compliquées. Il n'y a pas d'argent, il y a un problème de culture.
Bien sûr. Alors nous, là, les actions récentes, on va dire, c'est un travail avec l'éducation nationale sur les écrans. Dans lequel on essaye de sensibiliser toutes les familles, et en particulier à travers l'école et à travers les collèges, sur les dangers de l'écran en fonction de l'âge et des durées, et de ce qui peut échapper, et des conseils. Donc on travaille également avec les pouvoirs publics là-dessus.
Et est-ce qu'on peut imaginer des associations, par exemple, avec une autre association qui fait ça, le Club de la Presse, qui travaille aussi là-dessus?
C'est possible.
Comment vous coordonnez toutes des actions sur lesquelles vous êtes, Jean?
Oui, je voulais revenir moi sur. Vous avez parlé d'une crèche. Elle est où cette crèche?
Elle est au Millénaire.
Donc elle est à Montpellier.
Elle est à Montpellier au Millénaire.
Voilà, donc les services professionnels que vous avez développés, ils sont plutôt sur Montpellier?
Alors on a 4 sites de professionnels. Donc sur 7, Béziers, l'Odève et Montpellier.
D'accord.
La crèche, il n'y en a qu'une pour l'instant. Et on verra s'il y a des opportunités pour développer.
Il y a besoin de lits de crèche.
Il y a des besoins. Et aujourd'hui, on travaille davantage sur la coordination des crèches
familiales,
associatives,
plus
que familiales, qui ont la difficulté quand les parents ne sont plus...
Il y a un turnover.
Un turnover qui les fragilise beaucoup. Donc, on va plutôt parler de crèches associatives et de les rendre crédibles pour les institutions, en particulier pour les mairies et les CCAS.
Oui, parce que ça fait un grand débat. Hein. On dit, bon, les crèches, ça doit être des crèches municipales. Sinon, c'est des délégations de services publics. Ça peut être des crèches privées. Alors là, ouh,
avec des dangers d'enrichissement sans cause,
par exemple. Mais effectivement, il faut qu'il y ait là aussi une sorte de label qualité pour les crèches associatives.
Alors, on essaie de travailler...
À la fois aux parents et aux collectivités.
Absolument. Et là, on a développé des commissions de travail avec, justement, un ensemble de crèches associatives pour montrer des modèles vertueux de ce fonctionnement, proposer aux collectivités locales des conventions dans lesquelles ils se chargent du bâti. Ils louent. Donc, comme ça, ça garantit un loyer raisonnable dans le fonctionnement. À partir du moment où on est crèche associative et qu'on applique ce qu'on appelle la PSU à la CAF, qui est la prestation sociale unique qui permet de financer les crèches pratiquement à 80% parce de leur financement par la CAF.
Une crèche, ça se finance au berceau, comme on dit. Hein.
C'est ça, au nombre de personnes, de berceaux qu'on peut accueillir.
On aura l'occasion. Non, pas du tout. Non, on aura l'occasion.
Maria regarde l'heure.
Oui, bien sûr, je fais aussi Madame Temps, Madame Chrono. Oui, non, simplement pour dire que dans tous ces domaines d'action, les choses sont complexes.
Bien sûr.
Chaque chose doit être définie très précisément, etc. Donc, on ne peut pas tout passer en revue. Là, ce qu'on veut avoir, c'est une idée générale de ce que fait l'UDAF. On reviendra certainement là-dessus tout au long de la semaine. Deuxième pause musicale, si vous le voulez bien, vous soignez les familles aux petits oignons. Le jeu de mots est mauvais, mais on va vous passer un petit morceau de jazz de Louis Armstrong qui s'appelle Les Oignons. Ça vient de loin.
Oui.
Merci d'être toujours fidèle à ce 10-10 sur Radio FM+, avec Jean Maillet, qui est animateur dans cette radio, tout comme moi, et le président de l'UDAF 34, Jean-Jacques Fossé. Jean, vous voulez peut-être dire quelque chose sur cette semaine particulière à
non, on rappelle
Radio
que
FM+, voilà, c'est ça.
Tous les 10-10 de la semaine, jusqu'à vendredi, d'ailleurs, Maria, on vous y retrouvera aussi, d'ailleurs. Hein,
peut-être 10-10. Bien, je ne sais pas. Peut-être que je vais revenir, peut-être en deuxième semaine.
Non, il n'y aura pas de deuxième semaine, c'est cette semaine qu'il faut revenir.
Bon. C'est un exemple des coopérations qu'on fait avec les associations.
Oui, puisque beaucoup seront concernés.
C'est à ce titre-là.
On aura la FEP, on aura GAM, on aura une troisième dont le nom est assez complexe, donc je ne me risquerai pas à la prononcer.
Je voulais que je la retrouve entre-temps ou...
Non.
Donc, cela dit, là, ce qui me paraît important, c'est que vous suivez finalement l'évolution de la société dans tous ces fameux domaines qu'on a cités tout à l'heure. Je les rappelle, le logement, l'enfance, l'adolescence, les majeurs protégés, les aidants, les organismes de consommateurs. Et vous avez fait un observatoire des familles en 2013. Et c'est déjà ancien, hein, parce que ça fait 12 ans, 13 ans.
Tout presque. À fait, et qui s'est transformé assez récemment par un observatoire régional avec la MSA.
Mutualité sociale agricole.
La mutualité sociale agricole avec l'UDAF du Gard et l'UDAF de Lozère et l'URAF, donc on disait, donc l'URAF Languedoc-Roussillon, donc qui sont partenaires pour faire l'observation de ce que vivent les familles. Le dernier travail universitaire qui a été fait à notre demande, on a eu les retours la semaine dernière sur la pauvreté des familles dans nos départements.
Et alors, qu'est-ce qu'on observe ?
Et on observe toute une... Alors, c'est un sociologue et une ethnologue qui ont travaillé sur ces questions et ces observations, avec des types de familles sur lesquelles on pourra éventuellement intervenir. On est vraiment dans un travail qui va nourrir l'intervention des travailleurs sociaux
votre
et des intervenants.
De faire, ouais.
Pratiquement sur le terrain.
Concrètement sur le terrain, comment on va pouvoir utiliser cette connaissance fine des familles pour adapter les propositions qui sont faites. La CAF était présente au compte rendu.
Alors, c'est vrai que le Secours populaire avait fait ça. Le Secours catholique, plus exactement. Et donc, est-ce que ces données sont croisées, finalement ? Toutes ces données, parce que c'est des récupérations de terrain.
Peuvent l'être. Nous, à notre niveau, c'est une commande institutionnelle auprès de l'Université de Montpellier, de Paul Valéry. Elles sont disponibles.
Vous avez un poste au Centre communal d'action sociale, le CCAS de la ville de Montpellier.
Tout à fait.
La question du logement, on en a parlé, elle est essentielle. Est-ce que c'est le genre de travaux que vous pouvez mettre en commun avec les travaux du CCAS,
qui observe
beaucoup de choses.
En interne,
qui va faire un diagnostic social local en début
tout
de mandat
fait,
en plus.
Tout à fait, obligé, qui est conseillé très, très important. C'est un conseil qu'on donne aux maires qui arrivent pour avoir une politique qui soit adaptée aux réalités des problématiques qu'ils rencontrent. Voilà. Je vous avais parlé tout à l'heure de la commission logement, par exemple. On a une commission des représentants en CCAS de l'UDAF. En interne à l'UDAF, dans lequel on va justement partager toute une série de problématiques et d'informations qu'ils pourront ensuite porter en termes de parole des familles, porter à connaissance des CCAS dans lequel ils siègent et essayer de peser sur des orientations qu'on trouve cohérentes. Je vous disais tout à l'heure par rapport au DALO sur le logement, ça peut être sur la petite enfance et les crèches dont on a parlé un peu avant pour les CCAS.
Et la consommation aussi, d'ailleurs.
Et la consommation.
Alors, ça vaut toujours le coup d'aller voir les sites d'associations qu'on ne connaît pas. Moi, je ne connaissais pas spécifiquement l'UDAF, je n'avais entendu parler. Et sur votre site, vous avez un truc qui s'appelle l'économie de la débrouille ou consommer moins pour faire mieux. Et c'est là où on voit que le social et la consommation sont intimement liés.
Absolument.
Et donc, vous faites aussi du conseil auprès des...
Alors, on fait du conseil à ce niveau-là parce que c'est l'Observatoire des familles qui, dans ses travaux précédents, les années précédentes, avait chargé une ethnologue de regarder comment les gens se débrouillaient en termes de consommation pour arriver à faire face aux difficultés qu'ils rencontraient tous les jours. Et cet observatoire a donné donc toute une série d'exemples qui ont été plus ou moins intéressants, qu'on a partagés.
Issus de la réalité des choses. Et de la réalité des choses, parce que c'est toujours pareil.
C'est-à-dire des bonnes pratiques
à mettre en œuvre.
Bonnes pratiques ou en tout cas façon de s'adapter des familles qui étaient en difficulté.
Oui, parce que précarité énergétique, précarité alimentaire...
Différentes du rural à l'urbain, qui peuvent être parfois communes, mais souvent différentes, avec les difficultés qu'elles engendrent aussi en termes de présence sociale pour ces familles-là, etc.
Alors moi, j'ai une dernière question à poser. Après, peut-être, Jean, vous en aurez aussi une.
J'en ai 25 000.
25 000. Alors, je fais la mienne vite ou vous faites vos 25 000 tout de suite ?
Non.
Bon, on voit que la société a évolué. On voit que les problématiques ont évolué. Vous avez professionnalisé. Au départ, en 1945, j'imagine que c'était des gens qui étaient encore complètement imbibés, si je puis dire, par le Conseil national de la Résistance, par ses grands principes. Aujourd'hui, nous sommes 80 ans plus tard. Les motivations ne sont pas forcément les mêmes. Donc, vous cherchez des professionnels qui ne sont pas forcément engagés, j'allais dire, socialement, qui ont des compétences, ou est-ce que vous trouvez
réponse,
les deux ?
La réponse, on l'a apportée un petit peu tout à l'heure quand on a parlé du RSO, la responsabilité sociale des organisations qui ont donné les ISO et les procédures qualité, puisque à partir de cette observation des tâches des salariés, entre autres, on a donc un fonctionnement des services qui essaie d'être le plus en rapport avec les valeurs que nous portons. Parce que malgré tout, l'UDAF, c'est pas neutre, ce sont d'abord des valeurs familiales que nous portons, et avec toute une série de points qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, l'évolution de la société fait, par exemple, que les économies d'énergie, le changement climatique sont des points très importants.
Et techniques.
On s'est doté, par exemple, de panneaux photovoltaïques où on est presque autonome en termes de consommation électrique.
Sur vos différents équipements, c'est ça, non ?
Sur le Montpellier, dans un premier temps. Mais on a également, on fait partie du plan vélo de la ville Montpellier, donc avec possibilité de réparer son vélo sur place, avec toute une série d'éléments qui vont dans ce sens d'évolution de la société.
Mais quand on est président d'une association comme ça, est-ce que c'est pas un peu vertigineux ?
Ça l'est beaucoup.
Alors moi, je reste dans le droit fil aussi des associations. Hein. C'est quand même un secteur qui est malmené, on l'a vu. Bon, il y a eu des mobilisations qui continuent d'ailleurs avec, automne, avec le mouvement associatif. Vous êtes, vous, au fond, une sorte d'assemblée. L'UDAF, c'est un ensemble d'associations. Comment vous imaginez de mieux travailler ensemble, de mutualiser, puisque bon, c'est quand même des pistes dont on parle beaucoup, dont on a du mal à voir comment elles se mettent en place.
Nous, déjà, naturellement, on est une union d'associations, donc. Pour exister, il faut qu'on arrive à avoir des consensus et travailler ensemble sur des projets communs. Donc déjà, cette méthode de travail, on peut la partager avec tous ceux qui ont envie de travailler avec nous. Hein. On n'a pas de... Aujourd'hui, par exemple, on est en train de se rapprocher de l'IRTS, l'Institut Régional du Travail Social, qui forme les prochains travailleurs sociaux qui interviendront dans les années à venir, pour que certains points soient mis en commun sur les études qu'ils proposent, afin d'améliorer la qualité du travail qui sera porté ensuite par ces professionnels.
Et alors bon, moi je raisonne un peu aussi en termes de grandes familles associatives, donc il y a tout le... Vous, c'est les associations familiales, vos liens avec les associations d'éducation populaire par exemple, bon, il me semble qu'il y a cousinage là.
Ah, il y a un très grand cousinage dans la mesure où de toute façon, à partir du moment où on est constitué de nombreux adhérents, nos associations ont besoin de travailler sur les adhérents, c'est d'abord et avant tout les bénévoles, et donc ce travail en direction des bénévoles, toutes nos associations sont de fait des associations de culture populaire.
Donc, si vous souhaitez devenir bénévole, on ne s'adresse pas directement à l'UDAF. Ce n'est pas comme ça que ça se passe.
On passe forcément par les associations.
Par une association qui adhère elle-même à l'UDAF.
On rappelle qu'il y a une exposition toute la semaine dans les locaux du Carousel. Elle est accrochée en ce moment même. Elle sera ouverte cet après-midi.
Oui, monsieur.
9 boulevard Gambetta.
Et on rappelle que tous les 10-10 de cette semaine seront consacrés à une des associations qui font partie de l'UDAF. Voilà. Donc demain, c'est vous qui avez le programme en tête, Jean.
Je n'ai absolument pas le programme en tête, mais bon, je crois, je n'ai pas noté. Je ne sais plus si c'est la FEP ou GAM. Je crois que c'est la FEP.
D'accord. Donc restez-nous fidèles si vous êtes intéressés par ces questions. Et nous vous souhaitons à tous, évidemment, une très, très, très bonne journée avec peut-être un petit peu moins de vent, ça serait sympa. Merci à vous, Jean-Jacques. Merci à vous, Jean. Merci à Aurélien qui a assuré la technique de cette émission. Et on vous retrouve tout au long de cette journée, mais bien évidemment demain à 10h10, sans aucune faute.
Absolument.
Merci à vous aussi.
Au revoir. Au revoir.